Trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes, qui suis-je? Un ou multiple, une horreur, un miracle, quelque chose. C'est dit, ou plutôt c'est écrit dans « Souviens-toi des monstres », trois jambes, deux sexes, deux bras, deux têtes, ce quelque chose est le personnage du roman de Jean-Luc Daciano, le ou les personnages, puisqu'il s'agit de deux frères siamois dont l'auteur nous raconte la vie à la façon d'un roman d'aventure. Bonjour Jean-Luc Daciano.
Bonjour.
Ils sont un ou deux, singulier ou pluriel ?
Pluriel, même si régulièrement la question du singulier leur est posée et qu'ils vous vivent toujours ça un peu comme une insulte d'ailleurs, mais c'est bien un pluriel et il y a d'ailleurs trois chapitres, l'un étant consacré au premier des frères, le deuxième, enfin trois parties pardon, le deuxième c'est la deuxième voie et la troisième justement c'est la tentative d'une voie commune qui devient une voie familiale.
Seuls les rêves les séparent, écrivez-vous, mais au départ ils ont les mêmes rêves.
Ils
c'est
vieillissent.
Attesté.
Je présume qu'ils ont les mêmes rêves, de ce qu'ils ont pu me chuchoter durant mes rêves à moi en tout cas. Les rêves marquent un peu l'évolution de leur psyché intérieure et petit à petit dans leurs rêves il y a le désir, pas très assouvi entre eux, d'être séparés ou autonomes. Et c'est aussi par les rêves qu'on commence à comprendre qu'ils n'ont pas tout à fait le même caractère, que ce sont bien deux personnes différentes, partageant un même corps et parfois les mêmes désirs, mais qu'ils ont bien deux manières différentes de voir le monde et deux manières différentes de vouloir agir sur le monde.
Alors les rêves les séparent, l'amour peut les séparer aussi.
Tout à fait. C'était un peu une difficulté romanesque de dire que de ces deux siamois, l'un pouvait aimer une personne et l'autre ne pas l'aimer. Et essayer d'avoir une espèce de posture d'indifférence face à ses sentiments qui lui restent totalement étrangers.
Sinon, leur vie, forcément, leur mort, sont liées, puisque quand l'un meurt, l'autre aussi.
Normalement, oui.
Pourquoi normalement ?
Alors, comme je me suis beaucoup nourri de la vision des Siamois, selon Scott Oran, qui avait travaillé dans son texte sur les doubles, s'inspirant des cultures chamaniques, dans les doubles, souvent l'un des deux doubles est lié au monde des morts, voire est déjà du côté des morts. Et donc là, dans les deux frères Siamois, l'un des deux a un savoir sur la mort qui lui permet des tours de passe-passe assez particuliers. Donc, peut-être que si l'un des deux meurt, l'autre meurt, mais l'un des deux meurt-il vraiment et qu'en est-il de la mort dans ce texte où justement la frontière entre les vivants et les morts est un des enjeux permanents.
Alors horreur ou miracle, dans l'histoire d'ailleurs de la langue, le mot monstre dit les deux choses. Au Moyen-Âge, dans le vocabulaire religieux, je crois que monstre veut dire le prodige. Et c'est vrai que vos personnages font des miracles de toutes sortes. Cela va de la résurrection à la floraison des nocturnes des fleurs. Et en même temps, ils sont monstrueux.
Il y avait une idée très belle au Moyen-Âge qui était que le monstre était celui qui avait été marqué par Dieu. Donc le monstre était la preuve d'un miracle de Dieu et il y avait quand même beaucoup plus de monstres que de miracles avérés. Donc finalement les miracles divins étaient plutôt toujours monstrueux. J'aimais bien cette idée que dès qu'on sort de la norme, l'idée du positif ou du négatif a plus beaucoup de sens. On est monstrueux donc miraculeux ou miraculeux donc monstrueux. On retrouve aussi la vieille idée romantique du sublime qui peut être de l'horriblement beau ou du beau horrible.
Alors en tout cas dans votre roman Jean Graziano, vous donnez à ces personnages des noms d'archanges, Raphaël et Gabriel, alors qu'on voit leur naissance comme le signe du diable.
Oui, l'idée de Dieu et du diable, les deux sont jamais très loin, mais sur des visions assez païennes finalement, assez mélangées.
Et le diable prend les noms d'animaux. C'est incroyable le nombre d'animaux que vous utilisez dans ce livre, Souviens-toi des monstres. C'est à la fois un bouc, un bélier, un mouton, on les dit aussi frères des hyènes, des léopards, des chats, des écureuils, enfin tout le bestiaire y passe.
Il y a toute une classification au Moyen-Âge sur les animaux, en sachant que certains animaux étaient bizarrement, très clairement, du côté du diable ou apparenté au diable. Donc, par exemple, si vous lisez Pastoureau, quand il écrit ses textes sur les animaux et les fourrures, il nous apprend que les animaux à fourrure tachetée ou rayée sont des animaux du côté du diable. Donc, voilà, évidemment, je reprends ça. Tout ce qui est bouc, qui renvoie, en fait, aux figures païennes de Dionysos, sont des figures diaboliques. Et j'aimais bien l'idée que mes diables, plus que des êtres du côté du mal, étaient des êtres du côté d'une forme un peu ancienne de religiosité, de paganisme. Et que les diables étaient en fait antispécistes. Ils sont capables d'avoir des relations interespèces et d'avoir des demi-diables mélangés à d'autres animaux. D'où un bestiaire assez étrange, assez controuvé, mais que j'espère plutôt sympathique.
Et des chiens. Il y a des chiens très importants parce que finalement, Balthazar et Gaspard sont les doubles, d'une certaine façon, de Raphaël et Gabriel dans le livre.
Sur la partie de leur enfance, tout à fait. Gaspard et Balthazar, c'est deux Matins de Naples. Donc, il faut imaginer, le Matin de Naples, c'est une espèce d'énorme chien. La tête, et c'est une énorme tête très plissée, fait déjà un tiers du poids. C'est des très très grosses bestioles, assez effrayantes. Un peu ridicules aussi, de par leur physique, de peau très plissée, etc. Chien de combat, mais pas trop méchant. Enfin, chien de combat, mais assez passif, en fait. Et l'idée était que quand Gabriel et Raphaël sont enfants, ils ont un double en forme de gros chien, un peu étrange, un peu monstrueux, mais en même temps assez pâteux et baveux. Et tant qu'ils sont dans l'enfance, la proximité avec ces doubles animaliers est évidente, et cette proximité animaux, monstres, humains, divins, tout ça est dans le même gros fratras mélangé, et ça fonctionne comme ça.
Jean-Luc Daciano, que vous inspirent finalement ces personnages? Parce que ce roman est très gros, il fait plus de 500 pages, donc j'imagine que vous y avez passé beaucoup de temps, que vous avez rêvé beaucoup avec eux ou d'eux. Qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui, maintenant qu'ils sont comme ça posés sur la feuille?
Déjà une nostalgie, parce que j'ai très envie d'y revenir, de recreuser des branches parallèles de l'histoire, de m'intéresser à des personnages qui m'étaient secondaires au moment de l'écriture et que j'aimerais bien mettre en avant dorénavant. Donc il y a évidemment cette nostalgie, cette difficulté de te passer à autre chose. Après, ce qui est assez beau quand le livre est terminé et qu'il est publié, c'est qu'on doit s'en écarter, on doit le laisser vivre sa vie. Et ça, c'est assez troublant, ça peut être assez magique. En tout cas, je les vois évoluer en dehors de moi, être pris par les lecteurs qui m'en disent des choses qui ne sont pas nécessairement ce que j'ai vu. Et c'est plutôt assez agréable et assez beau.
Mais vous connaissez la phrase célèbre de Flaubert qui dit « Je suis Emma Bovary » du nom de son héroïne, pour dire comment l'auteur et son personnage sont parfois indissociables. Est-ce que vous pourriez dire ça « Je suis Raphaël Gabriel » ?
En partie, je pense que je pourrais être Raphaël et Gabriel. Oui, on a tous, évidemment, à la fois l'ambivalence des deux personnages. On voit toujours à des ambivalences qu'on peut avoir soi-même. Les tentations du bien et du mal, l'envie de bien faire ou l'envie de faire différemment, etc. Il y a tout ça. Et puis, il y a aussi tout cet imaginaire un peu d'une fausse Italie romanesque et mythique qui renvoie au pays de ma famille, qui est un pays que je connais comme touriste ou par ouï-dire, et qui renverra une espèce d'enfance que je n'ai pas vécue en Italie. Donc il y a un côté... En tout cas, l'imaginaire des Siamois est bien mon imaginaire. On a, on va dire, un passé commun, paysage commun.
Alors, nous allons raconter ces histoires fabuleuses, celles des Siamois et la vôtre peut-être, mais tout d'abord, nous allons faire un léger déplacement ailleurs. Ailleurs, c'est à Berlin aujourd'hui, à la médiathèque de l'Institut français. Nous sommes avec Emmanuel Fontaine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable donc de cette médiathèque. Que faites-vous pour le lectorat allemand, francophone ou francophile?
Que faisons-nous? Il y a plusieurs activités, mais principalement de janvier à mai, nous proposons un comité de lecture mensuel où des personnes qui parlent bien ou comprennent bien le français, peuvent assister à ce comité de lecture et rencontrer des écrits d'écrivains de langue française, mais pas seulement de littérature française.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, l'idée, c'est de faire découvrir des écrivains d'autres pays que la France, parce que la langue française est une langue vivante qui est apprivoisée par des personnes de bien d'autres pays.
C'est-à-dire des auteurs africains, suisses,
africains,
belges ?
Africains, québécois, suisses, belges, même des auteurs indiens. Nous pouvons avoir une auteure comme Shimona Sinha, que nous avons présentée lors du comité de lecture au mois de septembre dernier. Par exemple.
Et c'est donc une rencontre avec une œuvre et non pas un auteur. Donc l'auteur n'est pas forcément là.
Cela va dépendre. Nous avons un cycle de janvier à mai. Le comité de lecture va s'articuler autour d'écrivains d'un même pays. Et là, cette année, le pays que nous avions choisi de présenter, c'est l'Algérie. Donc une sélection a été faite et chaque mois, nous présentons un, voire plusieurs auteurs et quelques-uns de leurs écrits.
Par exemple, quelques noms?
Par exemple, Assia Djebar est l'écrivaine qui nous a permis d'inaugurer ce cycle. Et nous allons clôturer ce cycle avec l'auteur Mohamed Dib.
Donc des grands noms de la littérature algérienne en français. Y a-t-il du monde ?
Alors, ce comité de lecture commence à rassembler un public assez fidèle qui se renouvelle, de nouvelles personnes à chaque fois qui viennent rencontrer. On est une petite quinzaine et cela s'ouvre de plus en plus. Le bouche à oreille commence à faire parler.
En tout cas, la littérature en français a un peu la cote à Berlin.
Elle l'a depuis très longtemps. Les Allemands sont quand même très curieux d'autres cultures et notamment la culture de langue française. Et ils aiment parler les autres langues. Et ils parlent pour beaucoup assez bien le français, donc sont curieux de pouvoir s'essayer à la comprendre encore mieux.
Merci beaucoup Emmanuel Fontaine et bravo pour cette initiative donc que vous avez initiée à l'Institut français de Berlin. Merci. Salif Keïta en tournée mondiale avec son nouvel album et sur RFI. Salif Keïta qui se bat aussi pour la cause des albinos qui sont souvent considérés comme maléfiques. Et lisant votre livre, Jean-Luc Daciano, j'ai pensé à cela. Finalement, à la question en fonction des sociétés et des époques, de la norme et de la différence.
Alors il y a cette idée que là, évidemment, qui pourrait être un peu cliché, que toutes les différences sont des histoires de vision de société et sont en fait des aberrations sociales. Imaginer qu'un tel est différent, donc il est maléfique, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire que c'est une première lecture qui est évidente. Ce qui m'intéressait derrière ça, c'était aussi de voir comment, enfin, d'inventer une société qui avait une manière à elle de digérer et d'exploiter ces différences. Donc là, par exemple, sur les albinos en Afrique, il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps sur le fait que les albinos africains avaient découvert qu'on déterrait leur corps pour vendre des morceaux de leurs membres au marché noir parce qu'ils étaient considérés comme aphrodisiaques ou autres. Donc il y a une économie qui se met en place par-dessus une structure sociale qui pourtant les maltraite et les persécute. Là, ces frères siamois qui sont jamais très loin d'être en danger malgré leur famille qui les protège, le village a quand même fabriqué un possible culte à leur personne. Ensuite, ils sont dans un cirque où leur numéro est très rentable. Différentes factions politiques veulent les utiliser. Il y a toujours un truc très étrange sur la personne qui est hors norme, c'est qu'à la fois elle est maltraitée, elle est molestée, elle est mise en bordure. Et en même temps, il y a une économie qui se développe, qui les exploite, qui les utilise ou qui les transforme en symboles dans un sens ou dans l'autre.
Alors votre roman, Jean-Luc Daciano, s'appelle « Souviens-toi des monstres ». À qui vous vous adressez avec ce titre? C'est comme une interpellation du lecteur.
Peut-être. David Meulemans, l'éditeur, me disait que pour lui, c'était aussi un roman qui parlait de la fin d'une époque où les mythes étaient vivants sur Terre. Donc, quand les mythes sont vivants sur Terre, les monstres sont aussi incarnés par des personnages mythiques et sont décelables. Donc, ça donne à l'époque des contes et légendes, l'époque de l'Antiquité littéraire, on va dire. Peut-être que, en effet, mes personnages marquent la disparition de cette époque-là et la disparition des monstres identifiés comme tels, des monstres de foire, des monstres visibles. Et qu'il faut quand même s'en souvenir parce que maintenant, les monstres seraient plus discrets, plus diffus, plus indécidables.
En tout cas, le temps est compliqué dans votre livre parce que personnellement, au début, j'ai pensé que l'action se passait au Moyen-Âge. Il y a des pages comme ça écrites en vieux français. Tout ça se passe dans une île en Italie du Sud avec des références assez ésotériques. Mmh. Puis après, je me suis laissé embarquer et je me suis dit, mais non, on n'est pas du tout au Moyen-Âge, on est au 18e. Et finalement, il y a le cirque de monstres dans lequel Raphaël Gabriel sont embauchés, qui m'ont fait penser à Barnum, le cirque Barnum, donc à la fin du 19e siècle. Ça se passe quand?
Alors, c'est une uchronie, donc c'est difficile de définir une date. Pour moi, ce serait une espèce de 18e qui peine à passer dans le monde industriel, qui peine à découvrir ou à utiliser la vapeur, et un début du 19e. Même si après, je me suis permis des échappatoires, par exemple, à Brum, Saint-Bruno, la capitale, est une ville qui, je me suis beaucoup inspiré de la Rome antique, pour la décrire, sachant que la Rome antique était une ville qui comptait 1 million d'habitants, alors qu'à la même époque, Paris ne devait pas dépasser les 5 000 habitants. Mais c'est une uchronie qui se situe, je dirais, au milieu du 18e siècle.
Et en même temps, il y a une chasse à la baleine qui fait penser à Moby Dick, au 19e siècle. Et puis les Siamois vont se faire déniaiser dans un bordel rue des boutiques obscures. Et là, je trouve qu'il y a le parfum capiteux, comme ça, des salons en velours un peu rococo de cette époque. Et d'ailleurs, les putes disent « nos petits monstres ». Donc il y a de la tendresse à ce moment-là. Oui. Le mot « monstrueux » n'est plus du tout infamant.
Toute la il y a deux lignes narratives là. Il y a la problématique du bordel et des prostituées et de la place des femmes dans cette société qui était pas simple, puisque j'ai construit une société qui est éminemment patriarcale et violente, et du coup je me suis dit mais comment je mets en place des femmes qui pourraient sortir de cela sans non plus être en porte-à-faux par rapport à ce que j'ai créé. Et je sais pas si je m'en suis sorti, c'est pas si évident en fait de trouver ça. Et donc à un moment donné, j'avais entre autres ces personnages féminins du bordel qui avaient l'avantage simple au départ au niveau narratif qu'elles ne soient pas effrayées par ces deux gamins monstrueux, parce qu'on comprend que des personnages monstrueux, elles en ont connu d'autres, même si leur corps était normaux. Et puis après, c'était un peu un préambule, une annonce de ce qu'allait être le cirque, c'est-à-dire un univers clos, régi par ses propres règles, un peu sulfureux, un peu problématique, avec une forte identité sexuelle et des numéros, dans lesquels les Siamois pouvaient passer, si ce n'est inaperçu, du moins s'intégrer dans une espèce de protocole, processus.
Alors, de la même manière que le temps est un peu flottant, qu'il n'y a pas d'époque tout à fait fixée dans ce roman Souviens-toi des monstres, il y a une écriture qui fait qu'on passe de scènes réelles à des scènes rêvées, à des scènes mythologiques ou fantasmées, comme s'il n'y avait pas de frontière finalement dans le récit entre l'action que vous racontez, et c'est parfois un roman de pirate, c'est parfois un roman picaresque, et puis les scènes tout à fait oniriques.
Au départ, je voulais faire un grand roman picaresque et y mettre en même temps tout ce que j'aime en littérature, qui va de Moby Dick à Dostoïevski, en passant même par Faulkner, pourquoi pas, ou Jean Genet, les scènes de bordel. Je me suis quand même beaucoup inspiré de Chorale de Brest, par exemple. Et en partant de là, ça a donné, à un moment donné, je me suis retrouvé à faire une espèce de grand roman. Et par moment, j'étais sur des seuils d'écriture où je me disais, mais là, comment je fais avancer le texte sans me répéter ou m'imiter? Et je faisais alors pas un effet de pastiche, c'est pas tout à fait le cas, mais j'imaginais que tout d'un coup, un personnage secondaire qui venait d'un autre livre intervenait pour raconter l'histoire. Alors certains personnages secondaires sont devenus très présents, comme Rasputin, qui pour moi était un personnage caché dans les frères Karamazov. Mais donc d'où du coup cette apparition de chasse à la baleine ou de scènes qui peuvent renvoyer à d'autres types de littérature.
Donc finalement c'est un roman savant qui n'en fait pas étalage. Alors vous en parliez, Jean-Luc Daciano, Rasputin c'est l'un des personnages, c'est un des personnages qui se métamorphose dans le livre. Et j'aimerais justement que vous nous lisiez le passage où Rasputin se métamorphose.
Alors, je tente ça. Rasputin se transforma. Ses poils se tressèrent en chemise, gilet et pantalon. Sa taille diminua. Il gagna en embonpoint ce qu'il perdit en hauteur. Ses cornes imitèrent la forme d'un chapeau melon trop grand et cabossé. Le volume des cordes excédant celui du chapeau, les bosses étaient inévitables. Son visage devint humain, quoique chafouin, et seules ses chaussures, lorsqu'on les observait attentivement, ressemblaient à des sabots. Il fumait toujours le cigare. Mais maintenant, c'était un cigare de bas étage, puant le chien mouillé, et utilisait une canne dont nous ne voulions pas deviner l'équivalent préhumain. Rasputin était dorénavant un voyageur de commerce. La transformation avait été rapide, elle nous avait mis mal à l'aise. Plus qu'effrayante, elle était si violemment contre nature qu'elle semblait métaphysiquement obscène. D'Agrégent et Brigard étaient nullement impressionnés. « Ah, c'est rigolo les corps humains, comme ça en bon gros homme j'étais. C'est quoi cet accent ? Oh pardon, c'est l'accent du personnage. » Mais c'est un diable miteux, un tentateur de commerce, un petit bourgeois fadasse. Quel contrat ça propose un homme comme ça? Les plus classieux se font rares.
« Extrait de Souviens-toi des monstres, roman de Jean-Luc Daciano, quand le diable se métamorphose en représentant de commerce. Alors, le roman est quand même globalement sombre, mais il y a quand même de l'humour dans ce que vous écrivez.
Merci, j'essaye en tout cas de...
Bah, c'est indispensable en même
oui,
temps.
Oui, voilà, hein. C'est un texte qui a une trame parfois mélancolique, parfois sombre, qui parle quand même beaucoup de la mort, de la fin d'une société, etc. De familles violentes, de comment sortir de la violence. Mais en même temps, l'idée était d'avoir une narration qui restait joyeuse, avec des personnages qui étaient toujours irrévérencieux, en fait. Donc on a les frères siamois sont irrévérencieux. Ils sont en compagnie d'un diable qui se revendique diablaté, qui est totalement irrévérencieux et qui passe son temps à faire des blagues de bas étage. Il y a une famille inuite qui est pas mal non plus dans son genre. Enfin, il y a un certain nombre de personnages qui sont toujours en surplomb et qui, même dans les pires moments, apportent une espèce de vitalité que j'estime assez nécessaire. Et puis, indépendamment des personnages, stylistiquement, j'essaie de jamais être dans l'empaisement.
Vous êtes féru de littérature fantastique ou ésotérique, parce qu'il y a quand même là tout le vocabulaire. Alors, je ne sais pas s'il faut que vous nous fassiez une petite initiation, mais le Dibouk, l'Avatar, le Golem, et puis les peaux bleues et les peaux vertes.
Alors, les peaux bleues et les peaux vertes, c'est un autre registre. Là, on est dans le registre de la pêche pour les peaux bleues, qui sont les requins. Et en travaillant un peu sur les histoires de contrebandiers, j'avais découvert qu'on appelait les douaniers les peaux vertes ou les peaux grises, enfin en fonction de la couleur de leur uniforme. Donc du coup, j'avais fait l'amalgame entre les deux. Après, à une époque lointaine où j'avais fait des études à la psychanalyse, je m'étais amusé à travailler aussi sur la Kabbale et sur comment un certain nombre de symboles de la Kabbale se retrouvaient avaient irrigué en fait l'origine de la psychanalyse. Et du coup, le Dibouk, c'est un diable qui prend la forme de celui qu'il hante, enfin plus ou moins, il fait partie de la culture juive. L'avatar, c'est un double, tel qu'on le connaît, les avatars sur Internet, tout. Mais à l'origine, c'est vraiment un double de soi qui peut être un double diabolique, ou en tout cas un double un peu vampirique. Le golem, c'est la magnifique créature inventée qui serait née dans les ghettos de Prague et qui devient une espèce de géant. Il faut écrire MS, qui veut dire vérité, pour l'éveiller. Et quand ce golem, qui est un serviteur d'un des rabbins, devient trop puissant et dangereux, on lui efface le E. Et du coup, Metz veut dire mort à la ICFAS. Le personnage du golem a été repris dans la littérature populaire juive, mais aussi même populaire américaine. Il y a eu des Marvel qui reprenaient un golem qui faisait du baseball, par exemple. Mmh. C'est des figures qui sont assez magnifiques, qui donnent un très bel imaginaire et qui traversent les cultures, je trouve.
Et il y a des références à des ouvrages très tentants. Vous parlez, par exemple, de ce traité des fantômes, des succubes et autres inconsistants. Il existe vraiment ?
Alors, celui-là n'existe pas. Je me suis amusé à faire un mixte entre... J'ai pas mal de références à pas mal d'ouvrages. La moitié des ouvrages existent, l'autre moitié sont faux. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé si je voulais pas écrire tous ceux qui étaient faux.
Ce serait une bonne idée. Il y a aussi la très sainte et très secrète Bible des animaux à longues dents. Là, je me suis dit, c'est inventé.
C'est inventé. C'est spécifiquement sur celui-là qu'on m'a fait une demande quasi combinatoire de l'écrire.
Donc, des références à des textes d'époque, vrais ou faux. Et puis, bien sûr, si on regarde votre livre, si on lit votre livre, on pense au cinéma qui, en matière de monstres, va du meilleur au pire.
Le monde attend la naissance d'un cauchemar. Il va tous vous tuer. Les monstres sont toujours vivants.
Tu vois, ton papa...
Une histoire émouvante.
Non, on veut simplement te tenir dans nos bras. Je t'en prie. Allons, prends-le dans tes bras. Vas-y, touche-le et tu comprendras toi aussi.
Une histoire terrifiante.
Tu es à moi, j'en suis sûre.
Les monstres sont toujours vivants.
Aidez-moi ! Aidez-moi !
Je t'en prie, tire !
Je ne peux pas !
Bande annonce de Les Monstres sont toujours vivants, film de Larry Cohen que l'on peut classer, je crois, dans la série Z, mais j'avoue ne pas avoir vu le film. Est-ce que vous écrivez avec des images, Jean-Luc Daciano ?
Alors j'écris plus d'abord avec des images de peinture ou de gravure ou de bande dessinée, originellement. J'ai été très nourri aux images du Quattrocento, du Seicento, donc en termes de couleur, d'intensité, c'est plutôt ces images-là que j'ai d'abord en tête. Après, bande dessinée énormément avec des gens comme Matotti, comme Johann Svar aussi, comme Bernie Wrightstone qui avait fait une très belle illustration de Frankenstein. Et puis au cinéma, alors par deux lignes très différentes. D'un côté, je suis un grand amateur de série Z et de série B, donc de tous ces monstres brinque-ballons et assez ratés, dotés de scénarios pathétiques. Enfin bon, tout ça est très mauvais, mais ça nourrit quand même. Et à côté de ça, il y a toute une ligne cinématographique magnifique, comme le Fanny Alexandre de Bergman par exemple, où on a toute la partie où ils vont se réfugier chez leur chez cet ami de leur mère qui est un antiquaire juif qui fait de la cabale et qui cache un an chez lui. C'est un passage qui est totalement magnifique et
très beau film sur l'enfance, c'est, sur deux c'est, enfants.
Pour moi, un des plus beaux films qui existent, et en termes de référence, c'est peut-être la première par rapport à ce livre-là. J'avoue avoir vu la version de 3h30, la version de 4h30 et la version téléfilm qui doit faire 6h. Celle-ci, chaque fois qu'elle passe quelque part, je vais la voir.
Et vous dites de votre livre qu'il est lié d'ailleurs aussi à votre enfance. Oui. En Italie, ou en tout cas dans une Italie rêvée.
Une Italie rêvée, puisque moi, j'ai pas été élevé en Italie, mais il y a un rapport à ça.
Jean-Luc Daciano, vous êtes écrivain, mais aussi éditeur. Je crois que vous avez enseigné la littérature. Vous avez eu aussi, ou avez encore, une activité de libraire. Donc, en tout cas, une vue sur l'ensemble du champ littéraire. Comment vous vous placeriez, parce que j'ai l'impression que la littérature française et francophone n'est pas forcément une littérature d'imagination et met très très loin d'elle tout ce qui a trait à la magie ou au récit mythologique. Or vous, vous êtes en plein dedans.
C'est vrai que la littérature française a un peu de mal avec ça, à part Volodine qui a réouvert la porte en grand, mais il n'y a pas grand monde qui suit derrière. Il y a un blocage qui bétonne toujours, alors il y a un... C'est un peu pour ça que je suis aux forges du Vulcain, parce que David Meulemans, l'éditeur, lui défend cette littérature de l'imaginaire et essaie de la ramener. Mais c'est difficile et ça passe mal. Il y a un mélange de... Alors il y a des a priori, ce serait de la littérature pour enfants, de la littérature un peu bête. Alors, les éditeurs se sont réunis, on va appeler ça littérature de l'imaginaire pour plus dire fantastique ou SF. C'est un peu comme quand on a inventé le terme roman graphique pour plus dire bande dessinée. Dans le même temps, le dernier livre d'Alain Damasio, Les Furtifs, est dans les 5 meilleures ventes, je crois, en moins de 10 jours. Donc, il y a quand même un lectorat, mais il y a une peur quant à cette image-là, cette identité-là. Ça ferait pas sérieux, ce serait pas habituel. Il y a pas longtemps, en parlant du bouquin, je faisais une référence à Tolkien, parce que Tolkien essaie de ne jamais oublier un personnage en cours de route, même sur 2000 pages. Et là, on m'a dit, non, mais moi, je dis pas Tolkien, j'aime pas Tolkien. Je dis, oui, mais ce que je fais n'a rien à voir avec Tolkien. C'est du fantastique, c'est pareil. Mais en fait, il y a un vrai blocage. Alors,
dans la littérature, parce que pour le coup, si on parle de cinéma, entre Game of Thrones, les Heroic Fantasy, Le Seigneur des Anneaux, etc.
C'est très paradoxal.
Là, on accepte le merveilleux.
Le cinéma, le fantastique et le merveilleux, ou le super-héros, qui est encore un autre genre, fonctionne très bien. Ce sont les plus grosses entrées. Mais il a fallu des années avant que les critiques cinématographiques acceptent de parler de ce genre-là. Il y a très peu de gens qui avaient admis que c'était un genre à part entière. À leur décharge, produit par Walt Disney, c'est compliqué des fois de voir la dimension artistique fortement dissimulée par la dimension commerciale et le projet global qui est devant. Mais c'est considéré comme n'étant pas du vrai cinéma. C'est du cinéma de divertissement, c'est de l'entertainment, c'est du cinéma à produits dérivés, mais ce ne sont pas des vrais films. D'ailleurs, ce qui est vrai, c'est que, à moins d'être amateur de cela, on sait rarement qui réalise ces films-là. Il y a Joss Whedon, qu'on a fait quelques-uns, qui est une figure de proue. Mais à l'époque, on pouvait dire Ridley Scott a fait Blade Runner, c'est fini. Il y a très peu de cinéastes de fantastique ou de SF qui ont un nom. Donc il y a toujours un problème, même à ce niveau-là. Il y a bien un public, mais il n'y a pas la reconnaissance de l'œuvre à part entière.
Et pour la littérature, ça voudrait dire qu'on serait trop rationnel ?
Peut-être que le problème, il est en amont, on serait trop dans la classification. En Grande-Bretagne, il y a un auteur comme Terry Pratchett qui fait de l'heroic fantasy comique, ou Ian Banks qui fait du space opéra cruel, et fortement ancré à gauche, sont des auteurs qui sont parmi les plus lus en Grande-Bretagne. Et quand les journalistes anglais font des classements et des meilleures ventes, on trouve ces auteurs-là dans ces classements-là de manière indifférenciée. En France, on ferait d'abord un classement littérature, et puis après on fera un classement littérature de l'imaginaire. Tant qu'on refuse de mélanger les genres, le public restera assujetti à cette espèce de gêne ou malaise de définition.
Donc j'ai envie de vous dire bon courage.
Ouais, c'est un peu compliqué.
Merci
Mais
beaucoup.
Mais on y arrive.
Merci beaucoup Jean-Luc Daciano.
Merci à vous.
Souviens-toi des monstres est publié aux éditions aux Forges de Vulcain. De vive voix, Pascal Paradou à la présentation, programmation Véronique Durand, Olivier Roux à la réalisation. Merci, à demain.